J'ai commencé par un peu d'histoire parce que c'est quand même assez fondamental. Je ne pensais pas que c'était important à ce point l'histoire de la naturopathie pour expliquer ce qu'elle est, et finalement c'est très important. Alors j'ai bien été obligée de mettre un début, et globalement ce début c'est l'Allemagne. C'est Sébastien Kneipp qui était un prêtre catholique, mais pas au moment où il a découvert la naturopathie. Il était tuberculeux quand il était jeune et son médecin l'avait, très logiquement, puisqu'on était au 19e, l'avait condamné. Il ne s'est pas résigné, il a cherché ce qu'il pouvait bien faire pour se guérir et il a trouvé un bouquin écrit par un médecin, lui, Johann Sigmund Hahn, également allemand, qui vantait les bienfaits de l'eau froide. Ni une ni deux, Sébastien Kneipp, il a décidé de se l'appliquer à lui-même. Il a pris des bains d'eau glacée dans des rivières pendant tout un hiver. Ça aurait pu le tuer, ça l'a guéri. Donc il s'est dit, c'est une bonne méthode, je vais essayer de l'appliquer à d'autres. Entre-temps, il fait des études de théologie. Il est amené à soigner des collègues. Il intervient dans une épidémie de choléra qui a eu lieu en 1854 en Allemagne. Et, ben, ma foi, il en guérit beaucoup. Donc il met au point, il valide, entre guillemets, sa méthode qui consiste en 5 points, hydrothérapie, phytothérapie, activité physique, diététique et style de vie équilibré. Bon, jusque-là. Autre ancêtre de la naturopathie, alors celui-là c'est plus rigolo par rapport à ce qu'on en a fait après, c'est Antoine Béchamp, qui lui était médecin, pharmacien, chimiste, et qui a cherché ce qui pouvait bien être à l'origine de la vie, de la force vitale. Ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent dans la naturopathie. La force vitale, le vitalisme, c'est leur philosophie. Et donc, il lui a semblé voir, à la microscopie telle qu'elle existait à l'époque, des granulations. Et il a appelé ça des microzymas. Mais il a dit que ces microzymas, bon, ben, c'était ceux qui gardaient la force vitale. Alors, au 19e, ça peut s'expliquer. Le problème, c'est qu'en 2014, il y a des gens qui croient à ça dur comme fer. Entre autres, le dénommé Alain Scoï de l'Institut Paracels, qui n'est pas en France. Alain Scoï est un médecin. Et lui, alors là, c'est bête parce que j'aurais aimé...
L'un des plus grands voyous qui existe.
Ah, bon, ça, je ne savais pas. Donc, non, mais ça me surprend. Au demeurant, ça ne me surprend pas. Parce que pour donc ce médecin... les microzymas, ce sont donc des granulations qui font à peu près 30 nanomètres de diamètre et, enfin, vous voyez, qui sont animées d'une danse tourbillonnante perpétuelle et qui sont présentes dans tous les tissus vivants. Alors ces microzymas, sans les microzymas, il n'y a pas de vie. Ils sont très facilement observables en microscopie optique. Je vous rappelle qu'ils font 30 nanomètres. Ils sont capables de se reproduire et ils portent l'information génétique. Vraisemblablement au sein d'un cristal de silicium. Oui, voilà. Ça...
Des cellules ?
Non, c'est pas des cellules, c'est des...
Des entités ?
C'est... Ça n'existe pas. C'est...
Des
ah non, c'est... Voilà. Alors, je voudrais quand même... Est-ce que c'est possible de passer... Il est passé où, Jean-Luc ? Est-ce que c'est possible de passer une vidéo ?
Oui, si elle sort sur ton ordi, elle va se résoudre.
Si l'ordi le passe, ça passe là, ouais.
Après, il y a le son, hein, qui...
Alors, comment je peux faire
le moins en haut à droite.
Le moins, quel moins?
En haut à droite.
Ah oui, d'accord.
Voilà, pour l'instant.
Ah
oui, voilà. Et puis maintenant, tu vas chercher ta vidéo.
Alors, attends.
Là, tu es en train
d'entendre. Ouais, mais non, ça ne m'intéresse pas. En fait, il faut que j'aille sur Internet. C'est possible, ça?
Ah,
une connexion.
Il m'a dit que ça pouvait se connecter.
Ah oui, mais il faut l'appeler, oui.
Il faut un navigateur, Google Chrome, là-haut. Ouh là là, ça va être compliqué, là.
Tu connais l'adresse?
Ah oui, tout à fait. Elle est sur YouTube. Ah.
YouTube.
Ouais.
Oui, mais si tu n'as pas la connexion...
Hein. Alors, on va le savoir. Vous devrez l'avoir, là, la connexion. Vous allez voir.
YouTube, c'est un peu...
C'est pour vous montrer ce que sont les microzymas.
Oui, mais il faut que tu mettes...
Non, vous allez voir. Et oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, vous allez voir, voilà. Ça.
Ah, c'est lui, il y a un microzyme.
Ça, est-ce que vous y voyez assez? Oui, voilà. Alors, les microzima, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai montré cette vidéo à une amie biologiste qui est restée pantoise.
Et les petits trucs ou les gros?
Non, c'est les petits trucs. Les gros, c'est les globules rouges.
C'est les tout petits.
Les tout petits trucs qui bougent, là.
D'accord.
Ça. Alors, d'après elle, effectivement, elle m'a dit c'est des plaquettes, ça vraisemblablement. Alors là, on a quand même, parce qu'au début, elle était surprise, là, on a quand même un macrophage qui est passé. Voilà, donc tout ça, bah, c'est les microzima. Alors, il y a une incohérence, déjà, parce que les globules rouges, ça fait quand même 7 microns. D'après ce que dit Alain Scoï, le microzima, il est à 30 nanomètres. Non, ça ne se voit pas en microscopie optique, ce genre de choses. Ça, c'est assez clair. Voilà. Donc, première fantaisie.
Les globules rouges, là, ils sont, tu dis, à combien ?
7 microns environ.
7 microns, les...
30 nanomètres. Elle m'a dit qu'on voyait pas... Microns, hein. Elle m'a dit qu'on voyait... Non.
0,3.
Non, non, c'est 10 puissance moins 3, le nanomètre, par rapport au micron.
Oui,
parce que 0,3 micron.
Ouais. Bon, enfin, d'après elle, le nanomètre, ça se voit pas en microscopie optique. Comment je... Alors maintenant, mon problème, c'est de rouvrir. Où est-ce qu'il est ?
En microscopie optique, on voit des bactéries, ça peut se voir.
Elle avait pas l'air convaincue, en tout cas.
Moi, je peux le dire, c'est la pratique que j'ai.
Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je te crois. Alors, attends, diaporama. Et maintenant, comment je fais ?
Diaporama,
oui, ben oui, c'est ce que je suis.
Et à partir de la diapo actuelle, c'est la deuxième icône à gauche dans le ruban.
Ici.
Voilà.
Ah merci. Voilà. Donc ça, c'est un des précurseurs de la naturopathie pour les naturopathes dont j'ai acheté le livre. Alors ça, donc, c'est une photo des microzima, et après, effectivement, bon, il y en a deux sur lesquels je vais passer vite, parce que c'était une blague, en fait, les microzima, voilà, ça, est-ce que c'est des microzima, hein, on pourrait... Mais non, en fait, c'est des midi-chloriens, voilà. Vous connaissez pas Star Wars? Alors, les midi-chloriens dans La Menace Fantôme, le premier épisode, c'est ce qui porte la force, et qui transforme les gens en Jedi. Alors, à croire que George Lucas salue... Alain Scoï.
Oui, il existe en Angleterre maintenant un groupe de croyants aux Jedi et qui...
C'est pas vrai.
Mais si, c'est devenu une pseudo-religion. Oui.
Il y en a même aux États-Unis, il y en a qui ont réclamé à la Défense un budget spécial pour construire l'étoile noire.
Si je suis chargé de donner la parole, on va quand même la laisser à Marie-Hélène. Hein. On va pas trop la couper
bon.
Parce qu'elle perd tout son temps. Là.
Alors, les deux, ceux qui sont reconnus officiellement comme les vrais précurseurs de la naturopathie, c'est deux Allemands. À nouveau, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Allemagne. John Schill, homéopathe, point d'interrogation, parce que j'ai eu très peu d'informations sur lui. Je sais juste qu'il a créé le mot de naturopathie en 1895, et par contre, il l'a créé sur le modèle du mot homéopathie. Et ce que j'ai appris aussi en regardant un petit peu, c'est que c'est les homéopathes qui sont à l'origine de la création du mot allopathie. Voilà, bon. Et que c'est complètement refusé comme terme, parce que c'est... Enfin, voilà. Et le deuxième fondateur de la naturopathie, qui est également un Allemand, qui était ostéopathe, a-t-il fait des études de médecine ou pas? Ça, je ne suis pas arrivée à savoir. Les informations sont très brouillées sur Internet. Je n'ai pas trouvé. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a travaillé avec Kneipp, qu'il a été lui aussi victime de tuberculose et qu'il a également guéri par la méthode Kneipp. Enfin, avant d'émigrer aux USA, où il a fondé donc la naturopathie institutionnelle et il a également introduit les notions de base de la médecine ayurvédique aux USA. Autre grand ancêtre, entre guillemets, de la naturopathie, chaque fois je vous ai donné les liens dont je me suis servi, les sources dont je me suis servi. Herbert Shelton, qui n'est pas médecin, mais qui a eu, parce qu'aux États-Unis c'est possible, un doctorat en naturopathie et qui est également chiropraticien. C'est un des fondateurs de l'hygiénisme, qui est une méthode, un mode de vie qui prône donc l'auto-guérison par le jeûne, le crudivorisme et une alimentation adaptée. Pour Herbert Shelton, il y a quatre sortes d'aliments. Des aliments biogéniques, qui sont régénérateurs de vie, comme les graines germées. Des aliments bioactifs qui entretiennent la vie, fruits et légumes crus et frais, dès qu'on fait cuire, c'est fini. Des aliments biostatiques, qui sont d'origine animale, légumes et fruits cuits. Et des aliments biocidiques, qui tuent la vie. Tout ce qui est industriel et trafiqué, entre guillemets. Autre personnage important, qui va jouer un rôle important pour la naturopathie, c'est Louis-Claude Vincent, qui est ingénieur, qui était ingénieur hydrologue, et qui a créé une science, entre guillemets, qu'on appelle la bioélectronique. Alors cette science se définit comme la science des terrains biologiques. Ça, c'est ce que j'ai trouvé sur des sites naturopathes. Hein. Et qui donc présente un état des lieux de la santé d'un individu grâce à la mesure de trois paramètres, le pH, le potentiel redox et la résistivité. Alors, si vous voulez une définition de ces trois trucs-là, je peux vous la donner, sinon on peut passer. Et il a créé le bioélectronigramme. Ce bioélectronigramme répartit donc quatre zones, le milieu acide et oxydé, le milieu basique et oxydé, le milieu basique et réducteur et le milieu acide et réducteur. Et cette zone-là au milieu, ça représente la zone de santé parfaite. Voilà. Donc, toujours d'après la bioélectronique, la zone 1, acide et réductrice, c'est la zone de construction de la vie. La zone 2, c'est la zone de conservation de la vie, donc milieu acide, toujours. La zone 3, c'est celle de la dégradation de la vie, et celle-là, c'est celle de la destruction de la vie. Et ils mettent le terrain des cancers ici, donc dans le milieu basique et oxydé.
Je comprends pas, Marianne, les zones, elles sont censées être où dans le...
Ah ben c'est les zones de... Si tu veux, quand tu as ton pH, ton potentiel redox et ta résistivité dans cette zone-là, c'est que tu vas bien.
L'échelle est correspondante.
Ah,
c'est plusieurs
terrains superposés. En bas, c'est l'échelle du pH, hein, de 0 à 14. Et là, bonne question, je ne sais pas. Non, non, le pH est en bas. Et ça, je suppose que c'est bah, soit le potentiel redox, soit la résistivité. En fait, j'en sais rien. Bon, alors je ne sais pas ce que c'est cette échelle. J'avoue que je ne me suis pas interrogé là-dessus.
Il y avait trois facteurs, donc c'est difficile de mettre trois facteurs
sur la graphique. Et alors là, par contre, voilà, donc ça c'est la ligne électriquement, je ne sais pas d'où ça sort. J'avoue que ça m'a laissé un peu perplexe. Pas. Alors ça, ça c'est quand même plus marrant. Donc c'est le... Ici, vous avez, que j'ai pris sur ce site-là, vous avez des mesures bioélectroniques de la santé, de quelqu'un en bonne santé, et les mesures bioélectroniques du cancer, parce que le bioélectronigramme, vous pouvez le faire chez l'humain sur le sang, la salive et l'urine. Moi, mon premier problème ici, c'est que la salive et l'urine, je vois bien comment ils se les procurent. Le sang, j'ai plus de mal, parce qu'il est dit partout, quand vous parlez de la naturopathie, qu'ils n'ont pas le droit de faire de prélèvement de sang. Ils n'ont pas le droit. Non, les naturopathes n'ont pas le droit. En France, en tout cas, certainement pas. Aux États-Unis non plus. En Allemagne, ils ont le droit et ils peuvent aussi injecter. Mais en France, aux États-Unis, au Canada, dans les pays où j'ai regardé, ils n'ont pas le droit. Donc comment font-ils pour se procurer le sang, qui en plus de ça, pour mesurer le pH, doit être du sang artériel et pas du sang veineux. Comment font-ils pour se procurer ce sang? J'ai pas trouvé.
Y a-t-il des médecins?
Ça fait partie des bilans qu'ils demandent, hein, le bioélectronigramme. Alors, là, il y a une erreur grossière. C'est le pH sanguin de la santé. Il est marqué à 7,2. Non. Le pH sanguin artériel, c'est 7,4, plus ou moins 0,02. C'est tout. À 7,2, on est en acidose grave. On est en réanimation, on est aux urgences. À 7,2. On n'est pas du tout en bonne santé. Et le pH sanguin du cancer, 7,8. 7,8, même tarif. Vous êtes en réanimation aux urgences. Vous ne pouvez pas être en bonne santé avec un pH à 7,8. C'est hors de question. Bon. Alors, ils font pas que ça, ils ont mis les cancers, mais ils ont mis aussi les leucémies, les thromboses, la typhoïde, enfin bref. Non, on n'a pas un pH modifié autant. Quelqu'un qui est leucémique, son pH sanguin, il est à 7,4, peut-être 7,38 ou 7,42, mais il va pas être à 7,8, c'est pas possible. Donc ce bioélectronigramme, bon, enfin voilà, c'est un des examens complémentaires qu'ils peuvent demander. Alors, on en arrive maintenant au dur de la situation, qui est le fondateur de la naturopathie en France, c'est Pierre-Valentin Marchessault. Alors, ce Pierre-Valentin Marchessault, là aussi, on trouve de tout, oui, entre autres, on trouve vraiment de tout sur lui. J'ai pas réussi à savoir ce qu'il était pour de bon, ce qu'il avait été. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été professeur d'éducation physique et qu'il a fait, selon les sites sur lesquels vous allez, il aurait fait des études de droit, à quel niveau, de philosophie, le niveau on n'en sait rien, de biologie, pareil, le niveau, aucune idée. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il était joueur de rugby et haltérophile, donc très porté sur tout ce qui est exercice physique, enfin bref. Il a été très influencé, donc, par les hygiénistes américains, dont Herbert Shelton, dont je vous ai parlé, par Krishnamurti,
bien connu.
Voilà. Et entre autres, par deux personnes sur lesquelles je me suis penchée un peu plus. Un médecin, Georges Rouet, un médecin du début du XXe, dont la devise était « Revenons à la nature et régénérons-nous ». Alors j'ai trouvé des textes de lui sur le site de Gallica. Et Edmond Desbonnets, qui était un culturiste entre guillemets, dont la devise était « Santé, beauté, force ». C'est deux bons hommes un peu particuliers. Ah ben ouais, je ne pouvais pas passer à côté, il fallait que je vous les montre. Ils fêtent la santé, on est bien d'accord. Mais c'est quand même des bons hommes un peu particuliers. Le dénommé Georges Rouet, je vous ai mis un extrait d'un texte qu'il a écrit en 1913. Ce dénommé Georges Rouet, il est... Enfin voilà, je vous laisse lire.
Non.
Vous voulez pas? Vous voulez que je lise? Donc, les médecins aujourd'hui, donc ça a été écrit en 1913, hein, emploient tout leur génie, toute leur science à améliorer le sort des arthritiques, des goutteux, des dégénérés de toutes sortes. En agissant ainsi, ils obéissent aux devoirs professionnels, mais ils vont à l'encontre des lois de la nature. Car tous ces malades, lorsqu'ils ont été un peu retapés par nos soins, s'empressent de fonder une famille et ressèment toujours ainsi la mauvaise graine. Dans l'ordre moral, nous agissons absolument de la même manière. Au lieu d'envoyer mourir dans quelque île lointaine et malsaine les balandrins dangereux qui, sous le nom d'apaches, infestent les villes et les campagnes, nous les jugeons avec beaucoup d'égard, nous les installons dans des prisons confortables où rien ne leur manque, alors que de malheureux et honnêtes ouvriers meurent littéralement de faim et de misère dans leurs mansardes. Voilà où nous conduit un humanitarisme ridicule. Si vous voulez avoir un beau champ de blé, il faut absolument extirper l'ivraie qui pousse dans la terre où est plantée votre céréale, ni le chiandent ni le pavot ne s'en transforment en une graminée utile dont le grain, à la moisson prochaine, remplira votre grenier. Georges Rouet, c'est ça. Edmond Desbonnets, j'ai pas tellement trouvé de texte accusateur. Si, j'ai quand même pris quelques notes sur Edmond Desbonnets. Je reconnais que j'ai un peu instruit à Charles.
C'est régalé quand même.
Ouais. Alors voilà. Edmond Desbonnets et Georges Rouet, ils ont écrit tous les deux, en 1908, « L'art de créer le pur sang humain ». Ouais. Ils ont écrit ça en 1908. « L'art de créer le pur sang humain ».
Ouais. Mais bon, ça correspondait aux croyances de l'époque aussi. Si, il y avait...
Ouais, bon, enfin bon, hein.
Non, dans les romans populaires, c'est...
Ouais,
c'est
mais...
Lupin, tout ça, tu trouves tous ces trucs.
Ouais, mais j'ai pas aimé.
Non, c'est
j'ai pas aimé. On continue un peu sur la naturopathie. Donc les sources, alors Pierre-Valentin Marchessault s'est inspiré de Edmond Desbonnets et Georges Rouet. Et ses sources, bon bah évidemment Hippocrate, parce qu'il fallait bien que la naturopathie se raccroche aux branches quelque part, donc elle s'est raccrochée à Hippocrate, qui a effectivement, c'est pas lui, c'est son fils en réalité à Hippocrate qui a dit ça, que ton aliment soit ton médicament, et la théorie des quatre humeurs, qui est le fondement de la médecine hippocratique. La théorie des quatre humeurs, ça fait longtemps qu'on s'en est débarrassé. Autre source de Pierre-Valentin Marchessault, alors là j'ai été surprise, effectivement, c'est Jésus-Christ. Et son évangile apocryphe dit de la paix. Alors je vous ai donné le lien, là à nouveau, c'est un texte qu'on trouve dans les sites mystiques, et qui prétend donc que le Christ avait une tradition de soins naturels pour rétablir la santé, le jeûne, les lavements, le naturisme, point d'interrogation le naturisme, mais bon, ça y était, les bains d'argile, crise curative, ça j'ai pas très bien compris ce que ça pouvait être, et des conseils alimentaires végétariennes, crues, rythmées, en quantité restreinte, en la mastiquant longuement avec l'esprit de paix et en jeûnant un jour par semaine. Alors qu'est-ce qu'il a écrit ce Pierre-Valentin Marchessault ? Il a écrit 80 brochures dont le titre est quand même assez intéressant à regarder. Je ne sais pas si je peux aller. Tu crois ? Il est où ?
Essaye. On va voir. Sur mon ordinateur, ça doit connecter normalement.
Voilà. Alors là, vous avez la liste des 80 brochures pondues par Pierre-Valentin Marchessault, dont effectivement Jésus-Christ naturopathe. Ah ben il y a plusieurs courants naturopathes. J'ai même trouvé une naturopathie hygiénomiste. Je reconnais que j'ai pas cherché là. À un moment je me suis arrêtée parce que je saturais. Ouais, c'est le problème de la naturopathie. Donc voilà, il a même point écrit sur les méthodes de contraception et le problème de l'avortement, l'international des vivants, les maladies psychosomatiques, l'histoire inconnue des hommes. L'arthritisme, musculation, culture physique, bref, voilà, il a pondu un peu sur tout. Hein.
C'est édité, c'est combien ?
Si, on peut les acheter. Alors, on peut les acheter sur le site, ce site. Ouais.
Ouais. C'est les ouvrages du culturiste, c'est ça ?
C'est les ouvrages de Pierre-Valentin Marchessault. Non, le culturiste, il en a pondu qu'un, apparemment.
C'est daté, de quelle époque ?
Ah ben c'est tout avant ou juste pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin c'est à cette époque-là. Les naturopathes n'ont rien de postérieur à la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'était tellement bien ce qu'ils ont fait avant qu'ils ne peuvent rien rajouter en fait. Voilà, c'est ça. Comment je fais après pour revenir Jean-Luc ? Je ferme simplement ?
Fermant, oui, voilà.
Voilà. Voilà. Alors donc il a écrit quelques livres, alors là j'ai pas retenu les titres des livres. Et la philosophie de Pierre-Valentin Marchessault, c'est le vitalisme. Et en fait, c'est la philosophie de la naturopathie. Donc le vitalisme, c'est une doctrine selon laquelle les phénomènes de la vie sont irréductibles aux phénomènes physico-chimiques et manifestent une force vitale irréductible aux forces de la matière inerte. C'est lui qui va rassembler les 10 agents naturels de santé ou techniques fondamentales qui vont constituer la base de la pratique de la naturopathie, et c'est lui qui va ressortir donc la théorie des humeurs hippocratiques, des 4 humeurs associées aux 4 éléments, enfin bref. Hippocrate, ça pouvait se comprendre. 1940, c'était quand même un peu plus difficile. Alors, quelles sont ces techniques ? Ils ont 3 techniques majeures, qui sont l'alimentation et l'hygiène nutritionnelle, avec entre autres jeûne et monodiète, on reviendra un petit peu dessus, la psychologie et la relaxation, les exercices physiques et l'hygiène musculaire. D'après les sites de naturopathes, la Fenaman et l'Omnes, et d'après Daniel Kiefer, qui est un des naturopathes les plus importants en France à l'heure actuelle, ce sont ces 3 techniques qui sont nécessaires et suffisantes pour maintenir la santé. Mais à côté de ça, ils ont plein de petites techniques mineures, en fait ils en ont 7. L'hydrologie, avec les bains, les douches, les bains de siège, bref, tout ce que vous voulez imaginer.
Et le lavement, non ?
Oui, entre autres, le lavement du côlon, ça c'est un truc qu'ils aiment bien.
L'hydrothérapie du côlon, oui.
Voilà. Les massages et manipulations, alors là, tout ce que vous pouvez trouver comme massage et manipulation, ils prennent. C'est un peu le prof de la naturopathie. Tout ce qu'il y a comme technique non conventionnelle, c'est bon, ils prennent. Tout. Ce sont les généralistes de la médecine non conventionnelle. C'est incroyable. La réflexologie, autre technique mineure, donc parmi lesquelles des tas de trucs, des trucs dont j'avais jamais entendu parler, la réflexologie endonasale, entre autres, les points de Knapp. Je me suis un petit peu attardée dessus. Oui, voilà, c'est ça. Endonasal. Désolée, j'ai fait une erreur là. C'est endonasal. Je suis navrée. C'est endonasal. Oh ben, ils doivent pouvoir trouver un truc qui va avec.
C'est la rivière.
Oui, c'est ça. Alors, les techniques respiratoires, dont la méthode de Plett. Le recyclage des techniques empruntées au yoga et aux arts martiaux, le bol d'air jacquier, L'ionisation. Alors, le bol d'Erjaquier et la technique de Plante, la méthode de Plante, comme je ne savais pas trop ce que c'était, je me suis un peu penchée dessus. Le bol d'Erjaquier ? Oui, c'est ça. C'est encore un peu plus vicieux. La phytologie, aromatologie avec les plantes et les huiles essentielles, bon, ça, c'est un grand classique. Autre technique mineure, les techniques énergétiques. Alors là, c'est pareil, ils mettent tout, magnétisme, aimant, reiki, tout ce que vous voulez qui a rapport avec l'énergie, c'est bon, ils prennent. Ils prennent tout. Et les techniques vibratoires à partir de la couleur, rayonnement solaire, voire même la musique.
Les canteurs.
Oui, aussi. Non, non, mais si tu leur donnes, ils prennent. Il n'y a pas de problème. L'homéopathie aussi, oui, ils prennent tout. Alors j'ai essayé de chercher ce que c'était que les points de Knapp et j'ai trouvé des infos, mais vous ne les trouvez que sur les sites de naturopathie, ce genre d'infos. Sauf un ou deux textes que j'ai trouvé. J'ai trouvé deux références dans PubMed. J'étais très surprise, mais j'ai quand même trouvé.
Dans PubMed.
Dans PubMed.
C'est quoi PubMed?
PubMed. C'est le logiciel qui regroupe. Voilà. C'est ça.
D'accord. Site officiel de médecine PM.
Publication médicale.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Mais c'est pas. Là aussi. Tu trouves aussi. Enfin, c'est pas parce que c'est dans PubMed que ça a forcément une. Voilà.
Une validité scientifique?
Ben.
Ça veut dire que ça a été publié.
Ouais. Ça veut dire que ça a été publié dans des revues qui sont indexées dans PubMed.
D'accord.
Bon, en principe, c'est quand même valable, mais bon.
La majorité, c'est quand même un comité de lecture.
Voilà.
D'accord.
Donc, les points de Knapp, qu'est-ce que c'est? Alors, donc sur le site que je vous ai. Alors, je ne me suis pas trop penchée sur la vie de Georges Knapp parce que j'en aurais plus terminé. Donc les points de Knapp, ce sont des points qui seraient situés à la sortie, ça c'est le texte tel quel, hein, à la sortie du tronc nerveux de la moelle épinière, à la traversée des muscles ou d'une aponévrose par les filets appartenant au nerf, dans la zone où le nerf se dissocie, à l'intérieur de la couche dermique située juste sous l'épiderme, donc ils en ont fait une description très précise, et ce sont des signaux de blocage des organes. Pour eux. Et donc, ils vous disent que la mise en évidence de ces points est née d'une importante et longue étude des phénomènes inexpliqués de la névralgie sous toutes ses formes, de la rétention des nerfs et des muscles, je ne sais pas ce que ça veut dire ça, et plus particulièrement de la classification des déchets alimentaires producteurs d'acide urique et de leur action des phases sur des emplacements précis de l'anatomie humaine. Bon. Alors, voilà une image qui montre quelques points de Knapp. Voilà quoi. Il y en a un peu partout. On ne sait pas trop pourquoi.
C'est l'acupuncture.
Ah non. Confondons pas avec l'acupuncture.
Il y a des points partout, mais c'est pas les mêmes.
Et non. Alors selon si on manipule ces points de Knapp. On purifie l'organisme, on libère les énergies, enfin bref, voilà. Va voir un naturopathe. Alors, la méthode de Plante, comme je ne savais pas ce que c'était, ça fait partie, je vous le rappelle, de leur technique respiratoire. C'est là où j'ai trouvé l'article dans PubMed, qui date de 1952. Hein. Voilà. Alors, la méthode de Plante, elle était donc plus ou moins officielle. Donc c'est une méthode de rééducation pulmonaire par la pneumoscopie barique. La réoxygénation aortique, ça pose, bon voilà, et la concentration mentale respiratoire. Ça a été officiellement subventionné, ça date de 1950. Ça fait 70 ans. Le bol d'Erjaquier, alors oui là quand même, vous ne savez vraiment pas ce que c'était. Donc René Jacquier, c'était un ingénieur chimiste qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui a inventé la méthode d'oxygénation biocatalytique et qui évidemment était adepte du vitalisme.
Qu'il a vécu
longtemps, lui. Ouais, c'est vrai. 99 ans, t'as raison. C'est vrai. Alors, le principe, donc, de ce bol d'Erjaquier, c'est d'améliorer l'oxygénation cellulaire en faisant respirer, parce que le dénommé Jacquier s'est baladé dans des forêts de pins et a trouvé que l'herbe des forêts de pins était particulièrement sain. Et voilà, particulièrement c'est un endroit où la santé s'exaltait dans les forêts de pins. C'est un peu comme ça que j'ai compris qu'il était venu là-dessus. Et donc, le principe, c'est d'améliorer l'oxygénation cellulaire en faisant respirer un air enrichi donc en alpha-pinènes, qui sont des dérivés de l'essence de pain, qui ont la propriété d'améliorer la fixation de l'oxygène à l'hémoglobine, ok. Donc, ça fixe bien. Mais de former avec l'hémoglobine un complexe instable. J'ai eu un peu de mal à voir comment il passait de l'un à l'autre. Qui facilitait donc la libération vers les cellules sous forme d'oxygène natif. Je n'ai pas trouvé ce que c'était que l'oxygène natif. Si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneuse. Je ne sais pas ce que c'est que l'oxygène natif. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. L'oxygène natif, ça me dit rien. Le cuivre natif, je peux comprendre. Les métaux natifs, oui. Ah, mais ils avaient l'air de beaucoup tenir au fait que ce soit d'oxygène natif.
Normalement, c'est l'oxygène atomique. L'oxygène, il y a 3 milliards, c'est quasiment, c'est très instable.
C'est-à-dire au tout seul, c'est ça?
Oui, au tout seul.
Bon, voilà. Alors là, l'explication, bon, je l'ai prise sur ce site. Hein. Donc, c'est un système qui est quand même mis au point depuis la fin des années 40. Et depuis, ça n'a pas évolué. Voilà. Alors, donc, voilà, je vous explique pourquoi l'essence de pin. Parce que, à l'époque, les forêts de pin donc, étaient considérées comme des aériums, entre guillemets, et les stations thermales disposaient de touches térébenthinées. Pas de la térébenthine, ça. Voilà. C'est traitement de choc. Ça n'existe plus maintenant. Et on trouve quelques études, et on trouve quelques publiés dans des revues à peer review, effectivement. Entre autres celle-là, là. Voilà. Et celle-là, quand même, elle date de 2008. Parce qu'on en a eu, on a une biologiste qui a fait une thèse sur le bol d'air Jacquier. Ouais. Ça ne veut pas s'afficher ? Dommage. Et alors ? La conclusion de cette étude, quand on fait respirer ça à des rats, ça ne génère pas de stress oxydatif et par contre, ils ont été prudents, que ça produit globalement des effets antioxydants qui sont dépendants du nombre de sessions par semaine, et particulièrement chez les vieux rats.
Est-ce qu'ils ont mesuré leur espérance de vie ou pas ?
Alors écoute, si tu veux lire la revue, la publie, tu as le lien. Moi je reconnais que je ne suis pas allée la chercher. Mais ça a été effectivement publié.
C'est publié donc.
Oui.
Voilà. Les conclusions sont assez vagues.
Oui, les conclusions sont très vagues, et le problème c'est qu'elles n'ont jamais été reprises par personne. Voilà. Alors, il y a quand même une fiche toxicologique sur l'alpha-pinène, mine de rien. En France, quand vous allez sur le site des fiches toxicologiques, je crois que c'est l'INVS, on ne la trouve pas. Par contre, ils en ont une au Canada. Il peut y avoir quelques effets irritants respiratoires. C'est pas complètement neutre et anodin. Le bol d'air Jacquier. Au moins, il n'y a pas d'effet tératogène reconnu. C'est déjà ça. Et là, je prêche pour ma paroisse. Alors, j'ai essayé de voir un petit peu quelle était la formation des naturopathes en France. Il y a de tout. Ça peut durer 10 mois, ça peut durer 3 ans, on a ça en temps partiel ou complet, en e-learning, avec des stages ou pas, des prérequis de niveau bac ou pas. Les écoles sont affiliées à la FENAMAN, qui est l'organisation officielle de la naturopathie en France ou pas. Bref, on trouve de tout. Les matières enseignées, là c'est pareil, il y a de tout. Ils ont quelques matières fondamentales comme la physiologie. J'ai pas vu le contenu de l'enseignement en physiologie. J'aurais bien aimé, j'ai pas trouvé. Ça va donc de la physiologie jusqu'à l'usage des fleurs de Bac, en passant par l'aromathérapie, l'électrothérapie. Là non plus, j'ai pas trouvé ce qu'ils entendaient par électrothérapie. Ça m'a un peu inquiété quand même. Voilà, c'est ça qui m'a inquiété. L'alimentation vitale du nourrisson et de la femme enceinte, l'anatomie, mais il y a des écoles de naturopathie qui n'enseignent pas.
L'électrothérapie, ce n'est pas les UV qu'on utilisait au début. Moi, j'ai acheté une machine.
Je ne sais pas. Non, a priori, non, parce que ça, c'est l'UV thérapie. Donc, a priori, ce n'est pas la même chose. L'électrothérapie, a priori, c'est envoyer du courant électrique.
C'est la luminothérapie.
Enfin, voilà. Mais je n'ai pas trouvé tellement plus de précision. Hein. Parce que c'est un peu ça le problème sur leur site, ils vous envoient des noms comme ça, des tas de noms, qui font bien, qui en jettent, Et derrière, quand on creuse un peu, ben, il n'y a rien, ils ne vous expliquent pas ce que c'est. Donc, ils enseignent également la médecine traditionnelle chinoise, l'iridologie, et ils insistent particulièrement sur la nutrition et la diététique, c'est vrai. Alors, l'anatomie, quand même, il y a certaines écoles qui s'en dispensent. Ils n'enseignent pas l'anatomie. Voilà. Bon, c'est comme on veut. C'est vrai qu'il n'y a pas de diplôme reconnu en France, mais par contre, ils ont des certificats. Alors, ils peuvent avoir plusieurs grades dans ces certificats. Au bout d'un an, on a un certificat d'éducateur de santé. Au bout de 2 ans, ou 3 ans, ça dépend des écoles, on peut avoir un certificat de praticien naturopathe. Alors là, il y a effectivement plusieurs écoles. La naturopathie holistique, la naturopathie rénovée. Nous avons même la naturopathie hygiénomiste que j'ai découvert hier soir. Je ne suis pas allée plus loin là-dessus. Et les naturopathes en France se décrivent comme des éducateurs de santé et disent qu'ils ne font pas de diagnostic et qu'ils ne rédigent pas d'ordonnance.
Il n'y a pas la naturopathie
physique ? Peut-être bien que oui.
Peut-être pas, parce que s'ils
ne
sont pas médecins, ce sera un exercice. Ils se conforment au cadre.
Je suis d'accord. Ah non, mais je ne suis pas en train de dire qu'ils ont tort de ne pas en faire du tout. Je suis ravie qu'ils n'en fassent pas. Je dis, c'est ça, c'est sur leur site. Ils disent qu'ils ne sont pas médecins, qu'ils n'interfèrent pas en France, qu'ils n'interfèrent pas avec les traitements médicaux, avec les parcours médicaux, et qu'ils sont juste là en appoint. Et ils disent qu'ils ne font pas de diagnostic.
Prévention, quoi.
C'est ça. Ils se décrivent comme des généralistes de la santé. Le problème, c'est que quand on est en bonne santé, en principe, on ne va pas les voir. Si on va les voir, c'est qu'on a une demande. Quand on va bien, quand tout va bien, vous n'allez pas aller claquer 50 euros pour aller voir un naturopathe si vous vous plaignez de rien. Oui, non, mais ça, c'est parce que je te l'ai demandé. Si on va très bien.
Enfin, si on va 50 euros, ça reste un peu cher pour rassurer les hypochondriacs.
Non, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Alors, comment va se dérouler la consultation chez le naturopathe ? Premier temps, le questionnaire, qui est, paraît-il, parce que j'ai pas assisté, mais ça Martine va pouvoir nous le dire, qui est très complet. Ils sont censés vous interroger absolument sur tout, de votre naissance à l'âge, à l'âge que vous avez maintenant, tous les événements de santé que vous avez pu avoir, vos conditions de vie, vos relations sentimentales y compris, enfin bref, tout. Y compris vos parents, l'entourage, enfin bref, c'est censé être une anamnèse très exhaustive. Le deuxième temps consiste en un bilan de vitalité qui peut être fait au moyen d'une ou plusieurs des techniques que j'ai décrites plus haut. Alors là, c'est chaque naturopathe le fait à sa sauce. Et d'ailleurs, c'est précisé dans leur site, ils font comme ils veulent. S'ils se sentent plus à l'aise en vous faisant de la réflexologie ou des points de Knapp, ils le font. S'ils se sentent plus à l'aise en vous faisant autre chose, bon, bref, ils le font. Et c'est là que moi, j'ai personnellement un peu rigolé, parce que, donc, ça, c'est des Français, on est bien d'accord. Ils peuvent demander des bilans complémentaires, dont le fameux bioélectronigramme. Ce sont des gens qui n'ont pas le droit de prescrire. Comment ils font pour demander à nouveau un prélèvement de sang artériel ? Je ne sais pas. Un autre bilan complémentaire qu'ils peuvent demander, c'est le bilan Verne, Verne-Augusti exactement, ou cancérométrie. Ce sont des généralistes de la santé ou pas ? Pourquoi ils demandent une cancérométrie ? Alors, je vous explique. Le bilan Verne, ça a été mis au point donc par le docteur Verne en 1934, et le docteur Verne, au départ, c'était un spécialiste de la syphilis. Et il a essayé de mettre au point une technique qui permettait de faire un diagnostic de la syphilis sur sang frais. C'est pas grave. Je sais pas si cette méthode était efficace ou pas, parce que de toutes les façons, c'est vrai que n'étant pas biologiste, je peux pas en juger. Mais après, le dénommé Verne, une fois qu'il a eu mis au point cette technique pour diagnostiquer la syphilis, il s'est demandé si ça pouvait pas être utilisé pour aider au diagnostic des cancers. Ça date de 1934, je le rappelle. Depuis 1934, ça n'a pas bougé. Donc ce bilan Verne, il comprend plusieurs choses. Il comprend l'étude des mucopolysaccharides. Et les mucopolysaccharides, ce sont des molécules qu'on trouve partout dans l'organisme, qui sont très ubiquitaires. De l'acétate de cuivre, je n'ai pas vu ce que ça venait faire ici. Oui. Et là. Alors, et il affiche réticule endothélial différentiel. Alors, je vous en parlerai un peu tout à l'heure. C'est le deuxième, parce que Milan Verne, ça devrait être le deuxième. La cristallisation sensible. Alors, cette cristallisation sensible, effectivement, est utilisée par l'agriculture biodynamique et la médecine anthroposophique, tout à fait. Donc, cette cristallisation sensible, je vous la décris un petit peu, c'est une méthode qui consiste à faire cristalliser au moyen d'un additif, en général le sulfate de cuivre, des liquides, mais aussi donc des fluides corporels. Là, pareil, il leur faut du sang. Donc, il leur faut du sang à toutes les étapes. Il leur faut du sang pour le bioélectronigramme et pas n'importe lequel, le sang artériel. Le sang artériel, c'est quand même pas simple à obtenir. C'est pas au labo que vous faites un prélèvement de sang artériel. Ça se fait à l'hôpital, le prélèvement de sang artériel, parce qu'il faut piquer une artère. C'est pas évident. Voilà. Le bilan verme ou la cancérométrie, c'est pareil, il faut sur du sang. La cristallisation sensible, il leur faut du sang. Comment font-ils pour demander leur bilan complémentaire alors qu'ils n'ont pas le droit de prescrire une prise de sang? La dernière chose, alors là ça m'a laissé pantoise, c'est le protéome CEIA. Okay. Ah, je vais vous expliquer tout ça. Donc ça, c'est des images que j'ai prises de cristallisation sensible. Là, c'est du jus d'orange. À gauche, c'est du jus d'orange frais. Et à droite, c'est du jus d'orange après une journée au réfrigérateur. Voilà. Je vous montre les images. J'ai pas d'interprétation.
Pas pareil.
Oui, on peut le dire. Et c'est des images que j'ai prises, évidemment, dans un site bio. Ça vous étonnera pas. Alors ça, pareil, c'est plus pour l'anecdote, l'image d'une goutte de sang cristallisé. Je sais pas. Je ne me demande pas. Je montre ce que c'est que la cristallisation sensible et ce qu'on obtient. Comment l'interprète-t-il ? Je n'en sais rien. D'abord, comment l'obtient-il ? Je ne sais pas non plus. Alors, la FRED et la fiche réticulo-endothéliale différentielle. Alors d'abord, avec déjà le terme de système réticulo-endothélial, c'est un terme qui n'est plus utilisé par les anapathes. Dans mon bouquin à moi d'anapathes qui date de 1983, il disait déjà que c'était un terme qui n'était plus utilisé. Et donc, c'est une terminologie qui regroupe les différentes structures de l'appareil hémolymphatique, qui comprend cet appareil des organes très différents, sang, moelle osseuse, mais aussi donc les ganglions lymphatiques, la rate, le thymus, les amygdales, et qui comprend également des lignées cellulaires qui sont très différentes. Donc, cette fameuse FRED, elle a un intérêt, paraît-il, dans le diagnostic médical et un intérêt dans la surveillance thérapeutique. Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas réussi à savoir comment ils interprétaient cette chose-là. Je ne le sais pas. La phrase, je l'ai prise celle-là. Donc, voilà. Alors, cette phrase-là, c'est une phrase prononcée par le docteur Augusti, qui est un de ceux qui a, avec le docteur Verne, donc c'est dire qu'il est à la retraite depuis très 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 longtemps, le docteur Augusti, qui a mis en place cette méthode, et lors d'une conférence qu'il avait donnée en 2005 à la faculté de pharmacie de Paris, il en parlait. Alors je crois que je l'ai ici, voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit donc sur la fiche réticulo-endothéliale différentielle? Donc, il commence en disant « J'ai l'impression, déjà ça va mal, j'ai l'impression que dans notre corps humain, nos protéines, donc, sont fabriquées par le foie en une protéine qui n'est pas active visiblement, mais qui contient le système énergétique, parce qu'avant il a parlé du système énergétique. Donc, ce système énergétique va être mis en exergue par ce que l'on appelle le système réticulo-endothélial. Ce système réticulo-endothélial va faire apparaître les systèmes énergétiques des protéines, et ces protéines, chargées d'énergie à ce moment-là, vont lutter contre les agresseurs de l'organisme. Patrick ne fait pas cette tête.
C'est un truc qu'il n'a pas vu. C'est ça. C'est ce que j'ai compris.
J'ai l'impression que... Voilà. Donc, je continue. Le deuxième point de cette étude, c'est que entre le moment où le système réticulo-endothélial reconnaît un agresseur et le moment où le système immunitaire va détruire cet agresseur, il faut obligatoirement que le système réticulo-endothélial avertisse le système nerveux central, donc le cerveau, et c'est le cerveau qui va dire si oui ou non on détruit l'agresseur. Pour que ce système énergétique active les protéines, il faut que le cerveau soit conscient du danger et donne l'ordre d'activer la protéine pour détruire l'agresseur. Voilà. Vous pouvez trouver ça sur ce lien.
C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il ne pouvait pas exister de vie avant que le cerveau soit atteint.
Entre autres.
Est-ce que ça peut être ainsi ?
Entre autres. N'importe quelle cellule ? Ça date de 2005 et ça a été donné à la faculté de pharmacie de Paris.
Mais comment un type comme ça, enfin, je m'excuse,
non, mais
ça peut parler dans un truc de pharmacie ?
Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas que lui. Et alors, entre autres, parmi les participants, alors là, je voulais te demander si tu le connais, mais je pense que tu ne le connais pas, il y a un astrophysicien. Il y a un astrophysicien qui s'appelle Régis Glaise et qui vient parler. Tu connais de nom ? Non.
Ben.
Ah, quand même, parce que moi, j'ai cherché, je ne trouvais nulle part trace de lui. Et qui parle quand même de médecine quantique et qui dit qu'il comprend que, d'après la théorie des quantas, ça puisse être utilisé en médecine. C'était une réunion de fous furieux.
Mais
je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé trace de. Mais il s'agit bien du même, parce que des Régis Glaise, quand tu tapes Régis Glaise sur Google, tu en as un paquet qui sort.
Hein. C'est la caution scientifique de la médecine quantique.
Ah, ça serait pas très étonnant. Parce que c'est bien un petit peu comme ça qu'il s'exprimait. Si, bon, je ne vais pas vous le sortir en entier, mais vous avez le lien sur lequel j'ai pris ça, j'ai fait la photocopie, mais il y a toute la suite des intervenants, et entre autres de dénommer Régis Glaise qui parle. Bon, donc on était au bilan Verne-Augusti. Alors, le protéome CEIA, ça c'est quelque chose de pas mal non plus. Le CEIA, c'est un laboratoire qui est donc situé à Bruxelles, et CEIA, c'est les initiales de Centre Européen d'Informatique et d'Automation. Voilà, si on arrive à aller sur ce centre. C'est ce centre-là, et il a, alors là j'ai bondi, il a la charte ONCODE. Mais heureusement, elle est en réexamen.
Ouf.
La charte ONCODE, vous savez pas ce que c'est ? C'est censé être un certificat de validité des informations scientifiques répertoriées dans le site. Ouais. Mais heureusement, elle est en réexamen. Voilà. Oui, bon. Oui. Effectivement, c'est ce qui... Ça fait un peu peur quand même. Hein. Oui, elle a été donnée. Visiblement, elle a été donnée. Voilà, le CEIA, c'est donc. Bon, après, si vous voulez aller sur. Il y a des tas de. Donc, il vous explique. Nous avons, n'est-ce pas, un site réservé aux médecins avec l'explication de ce que c'est que la protéomique fonctionnelle.
Excusez-moi, j'interromps encore, mais qui dit qu'elle est en réexamen ? Est-ce que c'est eux ?
Je ne sais pas.
Parce que si c'est eux qui le disent, ils prétendent qu'elle a été donnée, alors que ce n'est pas forcément vrai.
A priori, sur le site ONCODE, le certificat, entre guillemets, doit être réévalué tous les ans ou tous les deux ans. Et quand il est en réexamen, ça veut dire qu'il doit fournir des informations supplémentaires.
Mais
j'ai compris ce que tu voulais dire.
Ce qu'il faut, c'est vérifier effectivement si ça a été donné ou pas, ce qui n'est pas sûr du tout.
Je ne sais pas.
Ouais, c'est vrai.
Mettre un logo, ça ne veut rien dire.
C'est vrai.
Alors, parce que si c'était purement frauduleux, comme il y a forcément des gens qui arrivaient là, cliquent sur le lien serveur certification, à ce serveur-là, ils s'apercevraient qu'il y a des liens venant de quelqu'un qui n'est pas référencé. Parce que là, la fraude serait découverte très vite.
Mais il y a une autre façon de faire prendre des vestiges pour des lanternes. Qui est d'afficher, comme ils l'ont fait, là tu l'as montré, que nous respectons les principes de la charte ONCODE, mais on est libre de le faire. Ça ne veut pas dire, voilà. Donc c'est ce
effectivement, nous adhérons au principe de la charte ONCODE, ils te disent vérifier ici. Bon, j'ai pas cliqué sur vérifier ici pour voir.
Ça me fait penser aux gens qui étaient passés par chez Brock et qui avaient été évalués par le laboratoire de...
Et qui marquaient évaluation, d'accord.
Évalués par le laboratoire d'éthique, sauf que l'évaluation avait conclu à la
comment, enfin, c'est quand même emmerdant, parce que moi, quand je dis à mes patients, essayez de n'aller que sur les sites qui ont la charte ONCODE.
Ah ben c'est trompeur.
S'ils aboutissent sur le site du CEIA...
C'est comme ça, hein.
Enfin, ils aboutiront pas, parce que moi, ils viennent pas me voir pour ce genre de truc, mais bon, hein, voilà.
Du coup, ça veut parler, parce que value est un anglais, veut dire à la fois évaluer et
valoriser.
Bon, bref. Donc, j'ai essayé, comme c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, cette histoire de protéome CEIA, j'ai essayé de faire un tri, mais je reconnais que c'est peut-être pas un tri très... Donc, cette méthode est une étude partielle des cinétiques moléculaires lorsqu'on introduit dans le sérum des patients, donc in vitro, une série de réactifs particuliers. Elle s'appuie sur une caractéristique physique des solutions colloïdales, la solvatation, qui est la vertu qu'ont les macromolécules protéiques de s'attirer ou de s'exclure lorsqu'on modifie l'équilibre ionique du solvant.
C'est absolument pas ça, le protéome.
Tu comprends
pas ? C'est absolument pas ça, le protéome. C'est du pipeau, ça. En plus,
j'ai pris ça sur leur site.
Solution colloïdale, ça date des années 60.
Ben voilà, non mais c'est ça. Non mais c'est ça. Et d'ailleurs, ils le disent qu'ils ont été les précurseurs et qu'ils ont fait ça depuis les années 60.
C'est un vieux concept agronomique pour expliquer ce que les liens entre l'argile, l'humus dans le sol, etc.
Voilà, c'est ça.
Alors, ils précisent quand même que ça se pratique exclusivement sur les protéines sériques. Donc, dans un premier temps, ils ont fait une série de tests pour décrire la structure colloïdale du sérum. Dans un deuxième temps, ils ont utilisé des animaux de laboratoire auxquels ils ont donné une alimentation standard et des extraits végétaux sous forme de teinture ou de macérat alcoolique. Dans un troisième temps, ils ont établi des courbes tests d'après les résultats sur les animaux. Et dans un quatrième temps, ils ont transposé ces résultats animaux sur une grille thérapeutique humaine en se basant sur les constatations cliniques des médecins participants. Oui, il y a eu énormément de médecins qui ont participé à ce genre d'études. Ils ont répertorié 1500. Oui, oui.
1500.
Voilà. Alors ça, c'est l'exemple d'une protéomique fonctionnelle, d'un protéome sérique, je ne sais plus. Alors, vous avez différentes courbes. Oui, mais ça en jette. Hein. Ça en jette. Alors, vous avez des trucs, le cétavelon.
Ah, ça existe plus, hein.
Ben, le cétavelon, c'était une pommade, le cétavelon. Est-ce que... Bon, ben, alors il n'y a pas que ça. Il y a le Kunkelzink, je ne sais pas ce que c'est. Takata, je ne sais pas du tout ce que
c'est. Acétate de plomb, ce n'est pas une protéine.
Mais il n'y a pas que ça. On a du sulfate de nickel, Popper, je ne sais pas ce que c'est. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, ça en jette.
Ça fait science.
Oui, ils ont badigeonné.
C'est du jargon.
Et ce sont des choses qui font partie des bilans que peuvent demander les naturopathes, y compris les médecins naturopathes, parce qu'il y a des médecins naturopathes qui demandent ce genre de bilan. Alors après, ils ont des tas de cas cliniques où ils vous montrent comment, grâce à cette fameuse protéomique, ils ont fait des diagnostics et des choses se sont arrangées. Je reconnais que là, je me suis arrêtée, j'ai lu un ou deux cas cliniques et j'ai dit stop, moi je mets les pouces,
pour l'instant, je
craque. Si, t'as la globuline gamma qui vient se balader là.
Oui, voilà. Après, tu regardes tout ce qu'il y a au-dessus, c'est pas les protéines.
Non, et verne résorcinol, je sais pas. Bon, voilà quoi, verne, c'est un rappel du spécialiste antifilis du début du 20e. Ah, on a la concanavaline A. Alors, pourquoi certains sont en bleu, d'autres en vert, d'autres en rouge? J'avoue, j'ai pas compris. Mais selon, leur diagnostic est différent selon si la courbe a une majorité de vert, de majorité de bleu, de violet, de... voilà. Ah oui, non mais c'est fou. Ils prétendent qu'ils sont exhaustifs en plus de ça, qu'ils étudient toutes les protéines sériques et qu'il y en a. Et alors, chose incroyable, donc ils te disent qu'ils sont exhaustifs et en plus ils te disent qu'on ne les connaît pas toutes. Voilà quoi.
Non, puis pour un protéome, quand même, il y a une majorité de ça. Alors c'est.
Alors, le troisième temps, une fois qu'ils vous ont fait, qu'ils ont prescrit tous ces bilans, ils disent qu'ils ne font pas de diagnostic. À quoi leur sert de prescrire ces bilans si ce n'est pas pour faire un diagnostic? Qui m'explique? Pour moi, diagnostic, c'est chercher à savoir de quoi la personne souffre, donc demander des examens complémentaires, ce qu'ils font. Alors, quand ils disent qu'ils ne font pas de diagnostic, ce n'est pas vrai. Ils cherchent à en faire un.
Tu avais une petite parenthèse, contribution au diagnostic. Ce qui implique qu'il y a donc un travail avec des médecins.
Pas en France en tout cas.
Et donc, voilà, quelle est la position
de l'ordre des médecins? Alors ça, c'est en Allemagne. En Allemagne, effectivement, les naturopathes sont vus et traités différemment, puisqu'ils peuvent même, j'en parle un petit peu après, puisqu'ils peuvent même être titulaires d'un diplôme d'État délivré par le ministère de la Santé.
historique, hein, si c'est né chez eux.
C'est né chez eux. Manifestement, c'est né chez eux. Bon, donc, une fois qu'ils ont prescrit tous ces bilans complémentaires et qu'ils n'ont pas cherché à faire le diagnostic, ils établissent un programme d'hygiène vitale, parmi lesquels on trouve... Ben, c'est pareil de tout, quoi. Au bout d'un moment, je me suis arrêtée parce que j'en avais marre. Des conseils qui concernent tous les gestes de la vie quotidienne. Le dénommé Daniel Kiefer, là, dans ce bouquin, il vous détaille absolument tout ce que vous devez faire du matin au soir. Ça vous rend la vie infernale parce que vous n'arrêtez pas de faire des tas de trucs pour être en bonne santé. Mais à mon avis, quand vous avez suivi son programme, le soir, vous vous couchez avec une crise de nerfs.
C'est pas des trucs qu'on fait naturellement.
C'est-à-dire qu'il... Oui, non, mais... Ah non, mais attends, non, s'il te plaît. Non, non. Il faut commencer par installer le matin une pensée lumineuse. C'est pas forcément mal. Tâchez de se souvenir de ses rêves qui peuvent être utiles pour orienter ou éclairer la journée. Après, selon ses croyances personnelles, se lier par le cœur à une valeur de nature spirituelle. Après, quand tu fais ta toilette du matin... Se nettoyer les fosses nasales à l'eau salée. Alors là, moi, personnellement, j'ai envie de dire non. S'il vous plaît.
Ah bon, faut pas. C'est
vrai,
l'eau de mer, là,
rien. Mon Dieu, mais oui, mais pas tous les matins. Tu finis par avoir des épistaxis du feu de Dieu.
Des quoi, des
saignements de nez. Prendre un bain de siège froid. Parce que le bain de siège froid va stimuler les gonades et les surrénales. Je veux un bain de siège froid le matin. Je comprends que ça vide les surrénales, à mon avis.
Ça vide de quoi?
Ça te donne un excès d'adrénaline, je veux dire. Non, les surrénales. C'est les glandes qui sont au-dessus des reins. Ah oui, auquel il faut sourire le matin en se réveillant. Bon, c'est pas une mauvaise chose de sourire à son partenaire le matin en se réveillant. Et alors, attendez, celui-là, donc le bain de siège a donc une quintessence de bienfaits sur le plan glandulaire, nerveux, circulatoire pour les hémorroïdes et les congestions pelviennes. Ok, ça peut se comprendre. Et énergétique, effet de prise de terre négativante sur le plan électromagnétique et stimulation des deux premiers centres énergétiques ou chakras. On continue. Ça veut dire que c'est comme ça toute la journée. Je ne vais pas vous... C'est pas possible. Oui, là, on est le matin. Alors, le petit déjeuner, c'est pareil. Il faut faire un truc. Après, le repas de midi, il faut magnétiser ses plats. Oui, voilà. C'est horrible. C'est horrible. C'est un des principaux naturopathes français. Daniel Kiefer. Il faut magnétiser ses plats. Tu passes la main sur ton alimentation.
Tu le fais, de toute façon. Tu passes ta main sur un plat.
Non, mais attends. Là, tu la passes pas n'importe comment. Il faut le faire en toute discrétion si tu es à l'extérieur pour pas passer pour un dingue, j'imagine. Et il faut imaginer des rayons lumineux. Il faut imaginer des rayons lumineux qui vont énergétiser ta nourriture et c'est comme ça que tu vas pouvoir, là c'est moi qui le dis parce qu'il ne le dit pas, mais tu vas pouvoir transformer tes mauvais aliments biophysiques en aliments biogéniques. Oh. En les magnétisant.
Vous pouvez rappeler le nom du maître ?
Daniel Kiefer.
Je ne dis pas. Bon, enfin, je dirai à la fin. Oui, si vous voulez. C'est un petit bouquin que j'ai acheté pour ça et qui coûte. Il coûte pas cher. Et non, mais j'aurais pas payé leur encyclopédie de la naturopathie, elle vaut 50 ou 60 euros. Oui ! Tu vas chez Soran, ils ont tout un rayon là-dessus.
Non, rappelez-vous ce que disait Michel aussi, hein, quand ils vendent des trucs sur l'énergie.
Oui, mais je ne fous pas les pieds à la Fnac.
On l'envoie.
Je vais chez Soran. Et ils ont réduit le rayon.
Voilà, le problème.
Matière médicale à la portion congrue, et celui-là a pris une dimension. Alors, je suis bien malheureuse, j'en ai parlé parce que je les connais bien chez Soran, ils m'ont dit...
Ça se vend.
Voilà. Ça se vend et ça se vend de plus en plus. Et si on veut garder la librairie ouverte et continuer à présenter quelques ouvrages scientifiques, on est obligé de vendre cela à côté. Voilà. Donc, les techniques de soins, éventuellement, c'est toutes celles que j'ai listées au-dessus. Donc, je ne vais pas recommencer. Les méthodes utilisant les aliments, nutrition, micronutrition, l'aromatologie... La phytologie, les soins par les plantes, bref, rayonnement lumineux, chiropractie, ils font de l'ostéopathie, ils font de la chiropraxie, ils font de la réflexologie, de la magnétologie, ils font tout. Ils font tout. Et c'est au gré de chaque naturopathe. Chaque naturopathe, parce que la naturopathie c'est un art, donc il est libre d'exercer son art. Ah. J'aimerais autant, là, si tu me la compares à ça, là, pour le coup. Oui, il y a un débat pour moi, la médecine. Donc voilà, la consultation naturopathique, ça se passe comme ça. Après, c'est, on arrive à la fin, là, hein, parce que de toute façon, j'ai plus de bois. J'ai essayé de voir un petit peu quel était le statut juridique de la naturopathie dans quelques pays. En France, c'est donc une profession non conventionnée qui ne peut exercer que tant qu'elle ne commet aucun acte médical. C'est l'article L441-661 du Code de la Santé publique. Aux USA et au Canada, apparemment aux USA, elle est reconnue dans 13 États où le titre de naturopathique docteur existe, qui est obtenu après 4 années d'études dans des écoles qui n'ont évidemment aucune affiliation à aucune université, sauf l'University of Bridgeport College of Naturopathic Medicine, qui appartient à la secte Moon. Heureusement, ils n'ont quand même pas le droit de pratiquer un acte chirurgical et ils n'ont pas le droit de prescrire des médicaments. Si, ah ben voilà, l'homéopathie c'est pas considéré donc comme des médicaments. Bah non. En Allemagne, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un diplôme d'état de Heilpraktiker qui est délivré par le ministère de la Santé et préparé dans des écoles privées, 3000 heures de cours environ, avec et alors ça, ils n'ont pas été trop cons les Allemands sur ce coup, ils obligent à étudier, je pense que c'est des cours donnés par des médecins, mais je suis, enfin j'espère, 30 pathologies infectieuses, c'est la déclaration obligatoire, et les MST. Et là, ils ont l'obligation, s'ils dépistent une pathologie comme ça, de renvoyer vers un médecin. Voilà. En Allemagne, c'est un peu différent. En Allemagne, ils ont le droit de faire des prises de sang et des injections de vitamines. Ça me fait un petit peu peur, une injection de vitamine, mais bon, ils ont le droit de la faire. Des injections homéopathiques, je ne vois pas ce que c'est qu'une injection homéopathique.
De l'eau sucrée.
Ah ouais, mais injecter de l'eau sucrée comme ça, non. Non, 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 non.
L'isothérapie.
Ah oui, je ne sais pas ce que c'est non plus. Voilà. Alors j'ai trouvé toujours pareil sur ce site. Et évidemment, la naturopathie est reconnue par l'OMS comme une médecine non conventionnelle. Ah oui, oui, oui.
C'est reconnu
comme une médecine non conventionnelle et l'Europe s'est également penchée sur ce problème. Je vous ai donné les liens parce que si vous voulez les regarder. Donc pour moi, en guise de conclusion, la naturopathie, c'est une pratique de santé, entre guillemets, basée sur une croyance, qui est le vitalisme, qui évidemment n'est pas démontré. Un mélange de toutes les techniques de médecine parallèle existantes, sans validation scientifique pour aucune d'entre elles à ce jour, à part les deux articles que j'ai trouvés dans PubMed pour le bol d'Erjaquier et la méthode de Plaint, et qui datent de 1950. Pour la méthode de Plaint, le bol d'Erjaquier, il n'y en a eu qu'une ou deux. Une biologiste qui a fait sa thèse là-dessus. Une diversité et une hétérogénéité totale des pratiques. Évidemment, une absence de contrôle et de validation des protocoles de soins. Ils n'ont pas de conférence de consensus. Chacun fait son truc dans son coin. Terminé. On a fait beaucoup de progrès en médecine depuis qu'on a établi les conférences de consensus. Et l'accréditation, et ça nous a fait faire beaucoup de progrès, ça nous a fait beaucoup diminuer la iatrogénie.
Tu peux expliquer ce que c'est une conférence de consensus ?
Alors, quand on se trouve devant un problème d'une maladie particulière, ou, par exemple le cancer du sein, les spécialistes concernant le cancer du sein se sont réunis pour établir un protocole de diagnostic, de traitement et de prise en charge qui est censé être suivi par tous les médecins qui s'occupent de qui prennent en charge ces patients-là. C'est ce qu'on appelle des conférences de consensus.
Qui débouchent sur les bonnes pratiques.
C'est ça. Ça revient à ça. Et elles sont réactualisées régulièrement en médecine, bien sûr. Et donc, des examens complémentaires qui sont basés sur des connaissances de physiologie qui datent des années 30 et 40 et qui n'ont eu aucune réactualisation depuis, puisque, toujours d'après le dénommé Daniel Kiefer, depuis les textes fondateurs nord-américains, ces techniques n'ont pas pris une ride. Mieux encore, il nous est impossible de leur ajouter une 11e technique, tant le génie de nos maîtres avait élaboré une parfaite synthèse fonctionnelle et dynamique. Elle reste néanmoins toujours ouverte à de nouvelles techniques. Sous-techniques, pardon. Et là, vous avez quelques liens. Alors, un lien qui est très intéressant, je ne connaissais pas ce site. Il est en anglais, ok, mais il est quand même très intéressant. Où Non, je ne veux surtout pas la traduire. Où, donc, il fait une analyse critique de la naturopathie et le cite en lui-même, que je ne connaissais pas, voilà. Et qui, à mon avis, il est en anglais, mais à mon avis, il est très intéressant à regarder. J'ai pas eu le temps de trop fouiller, mais je pense que c'est un site à retenir.
J'ai l'impression que ça commence à émerger. Non, Health Fraud, comment vous traduirez ça ?
Fraude à la santé.
C'est ça.
Parce qu'il y a un autre
les
terme.
Santé à la fraude. Anglais, les fraudes à la santé. La fraude sanitaire. J'ai pas réussi à voir par contre si c'était aux États-Unis. Je pense que c'est les États-Unis, mais je suis pas sûre.
C'est peut-être au Canada aussi.
C'est peut-être aussi au Canada. Donc bon, c'est un site qui est qui donne des liens donc vers d'autres sites. Il est intéressant à retenir celui-là.
Il y a quelque chose sur la naturopathie.
Voilà. Mais il y a quelque chose sur la naturopathie. Alors bon, je vous ai. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais plus. Je vous ai mis tellement de trucs.
C'est le Parlement européen, alors.
Ah, voilà, c'est ça. Donc là, c'est le rapport sur les médecines non, sur le statut des médecines non conventionnelles.
Qui date de quand ?
94, apparemment. 97, le rapport ici. Et après, ça, je ne sais plus ce que c'est. Voulez-vous ouvrir ? Je peux l'ouvrir, Jean-Luc, là ? Parce que vu l'avertissement qu'il me met. Ah oui, je sais ce que c'est. Non, c'est pas utile de l'ouvrir. Non, non, non. Oh zut. En fait, c'est le récit, c'est le un PDF d'un des cours de naturopathie. Ouais, c'est bon. Vous pouvez le regarder par curiosité. Alors, il y en a un autre qui a fait une étude critique de la naturopathie. Celui-là, il est toxique. Il est en anglais aussi. Ah ben, je vais mettre 3 ans à l'ouvrir.
C'est
donc
un PDF.
C'est
pour ça qu'il te met. C'est parce que c'est un fichier.
Ah merde. Pardon.
Tu reviens en arrière si tu veux.
Bon ben voilà. Donc c'est des liens. J'ai donné le lien de. Bon mais ça vous le trouvez facilement sur en tapant naturopathie, le lien de la Fenaman et le lien de l'OMNES, qui sont les organisations professionnelles entre guillemets de la naturopathie. Ils essaient de s'organiser. Oui, c'est vrai. Ça rend pas leur pratique plus scientifique pour autant. Voilà.